Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Nos trois experts ce matin, Céline Antonin, économiste à l'OFCE, bonjour.
Bonjour.
Co-auteur du Pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme, édition Odile Jacob. Pierre Jacquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de politique économique à l'école des Ponts Paris Tech et membre du Cercle des économistes que vous représentez cette semaine. Et bonjour également à Pierre-Henri de Montbon,
bonjour.
Directeur de la rédaction de Challenge. Est-ce qu'il s'agit d'une prévision ou d'une incantation ? En tout cas, Bruno Le Maire promet un élan économique puissant pour l'an prochain. Il constate le ralentissement de l'inflation et espère désormais que les baisses de taux des banques centrales vont permettre de relancer la machine. On va prendre les choses par étapes. D'abord, le ralentissement de l'inflation. Céline, est-ce que les banques centrales vont encore pouvoir nous dire à ce niveau-là que le combat contre l'inflation n'est pas encore gagné ?
Je pense que c'est de plus en plus difficile de le dire. En tout cas, il est vrai qu'on a eu une baisse de l'inflation qui a été assez rapide dans les derniers mois, et en France, mais également dans les autres pays de la zone euro. Hein, donc, dans certains pays d'ailleurs dans lesquels l'inflation avait beaucoup plus progressé qu'en France, je pense notamment à des pays comme l'Allemagne. Donc, effectivement, on s'attend autour, disons, de l'été à un début de baisse de taux. Alors, je ne sais pas qui dégainera en premier entre la Fed et la Banque Centrale Européenne. Mais
réunion de la BCE la semaine prochaine. La suivante, c'est le 6 juin. Pour l'instant, le marché prévoit une baisse pour le 6 juin.
Voilà. J'allais dire, c'est plutôt à l'été qu'on voit, enfin à l'été, oui, ou en tout cas vers l'été, qu'on prévoit un début de baisse. Mais ce qu'il faut voir avec la politique monétaire, c'est que même si on commence à enclencher des baisses, il y a toujours un temps de transmission de la politique monétaire sur l'économie réelle qui fait que on va continuer en 2024, en tout cas, à subir les effets des hausses passées et le fait que les crédits à l'immobilier, enfin pour l'immobilier, la consommation, etc., coûtent plus cher. Donc il est vrai qu'en 2024, ça devrait encore nous amputer d'un certain pourcentage de croissance. Nous, à l'OFCE, on chiffre qu'on a à peu près un demi-point de croissance en moins en 2024, qui est lié justement à l'effet de la politique monétaire. En revanche, il est vrai qu'en 2025, on devrait voir un petit effet positif, en tout cas de soutien, qui vient de la politique monétaire, mais ça sera surtout en différentiel par rapport à 2024, on aura encore cet effet qui sera prégnant.
Pierre Jacquet, vous êtes économiste également. Est-ce qu'il y a un risque de reprise de l'inflation à ce stade ?
Il y a toujours un risque de choc extérieur, compte tenu de la situation mondiale en particulier.
Mais c'est une inflation particulière sur laquelle les hausses de taux n'ont pas prise, si on parle du pétrole.
Et le traitement par la politique monétaire ne serait pas à ce moment-là le plus approprié. Donc je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, ce qui tente à suggérer que la perspective d'une croissance radieuse en 2025 tient un petit peu de l'incantation. Parce que les vraies sources de la croissance, c'est pas la politique monétaire, c'est les gains de productivité. Alors il se trouve qu'il y a des bonnes nouvelles de ce côté-là, parce qu'on est dans plein une révolution industrielle, sauf que ces révolutions industrielles, qui sont des révolutions très structurantes et structurelles, mettent près d'un demi-siècle à produire tous leurs effets. Donc on est dans cette période un petit peu de transition dans laquelle on voit la productivité ralentir et on ne voit pas tellement ce qui peut permettre de l'augmenter à court terme. Et ça tient aussi de la qualité des dépenses d'investissement, des dépenses publiques en particulier. C'est un peu pour ça qu'on peut être préoccupé de la tendance actuelle qui consiste à dire réduire la dette quoi qu'il en coûte.
Pierre-Henri de Menton, Bruno Le Maire, il fait quoi ? Il fait de la com, il prépare la prochaine campagne. Est-ce qu'il cherche à rassurer les agences de notation ?
Alors, c'est un grand classique. C'est un grand classique, c'est la croissance y pourvoira. Alors là, ce qui est un peu gênant, si vous voulez, c'est que dans le même temps, il a un discours extrêmement alarmiste sur les finances publiques. Et il y a quelques semaines, le gouvernement, assez piteusement, a dû revoir très largement à la baisse ces prévisions de croissance qui avaient été inscrites dans le projet de loi de finances. Donc on a, c'est un grand classique de communication du ministre de l'économie et des finances et généralement des gouvernements français que de dire de toute façon la croissance sera là et les rentrées fiscales vont suivre, sauf que ça a pas du tout marché l'an dernier et que
mais ça marche jamais généralement
ça peut marcher, on peut
accabler Bruno Le Maire, mais
ça peut marcher. Il y a eu des exercices fiscaux où par exemple le gouvernement avait prévu des taux d'intérêt, des un service de la dette qui n'avaient pas grand-chose à voir, et on peut avoir des bonnes surprises. Et effectivement, là, s'il y a une baisse des taux, il y aura un impact presque mécanique. Alors, il va falloir attendre assez longtemps, mais oui, sur un certain nombre d'agrégats, comme la dette, le service de la dette. Et puis aussi, il y a un levier qui peut être assez rapide, c'est celui du... Ça peut débloquer le crédit immobilier aussi. Donc là, il peut se passer des choses, effectivement. Mais là, on est quand même dans la communication. Je vous fais pas de dessin, tout le débat en ce moment tourne autour des finances publiques. Est-ce qu'on va y arriver avec cette échéance fin avril? Je crois que c'est le 24 de Moody's. Donc on est là dans l'incantation.
Alors il y a plusieurs leviers. Réduire les dépenses, ça, en ce moment, on a un petit peu un concours l'épine des mesures d'économie, c'est ce que disait Clément Beaune le week-end dernier. Va falloir faire 30 milliards d'économies sur 2 ans si on veut revenir dans les clous de la trajectoire budgétaire, 10 milliards cette année et 20 milliards l'an prochain. L'autre option, ce sont les hausses d'impôts. Vous êtes tous les deux économistes, qu'est-ce que vous conseilleriez à Bruno Le Maire ? Céline.
D'accord. Donc, alors ce que je conseillerais à Bruno Le Maire, alors j'avoue que c'est compliqué. Moi, je pense qu'il ne faut rien exclure, c'est-à-dire que... Je pense que de dire, enfin, c'est un petit peu ce qu'on entend, le message dominant est de dire, on ne veut absolument pas toucher au prélèvement obligatoire et ne pas augmenter l'impôt. Alors moi, personnellement, je pense qu'on est déjà en France à un taux de prélèvement obligatoire qui est le plus élevé en Europe, hein. Donc, il est évident que c'est pas une panacée que d'augmenter les impôts. En revanche, on ne peut pas totalement se l'interdire non plus. C'est-à-dire que de faire peser, on va dire, l'effort uniquement sur les dépenses publiques, ça me semble assez irréaliste quand on a 30 milliards à trouver. Et pour autant, il est vrai qu'il y a aussi des choses à faire du côté de la dépense. Donc, en gros, si je devais résumer, je dirais que en matière de prélèvement obligatoire, on est déjà très élevé, mais il est évident qu'on peut repenser certaines choses sur la fiscalité. Alors, sans rentrer forcément dans les détails, mais notamment si on regarde ce qui se passe sur l'impôt sur le revenu, par exemple, on peut se dire... effectivement, on peut très bien repenser un impôt sur le revenu en ayant, par exemple, des tranches marginales plus élevées. Il y a des choses qui sont faisables. Mais après, je veux dire, voilà, tout ça se réfléchit, tout ça ne se fait pas dans l'urgence. Par exemple, sur les très hauts revenus, il y a une taxation qui est possible. Ça, c'est une première chose.
Mais la fiscalité, c'est pas uniquement l'impôt sur le revenu.
Bien sûr,
la question
de la TVA. Alors, on en a tout parlé. Alors, c'est vrai que ce qu'on dit sur la TVA, c'est que en général, c'est un moins bon impôt parce qu'il va toucher indifféremment toutes les catégories, et que c'est vrai que c'est un impôt plus injuste parce que
il affecte plus les classes populaires.
Il va affecter davantage effectivement ceux qui sont.
Mais les touristes le payent.
Tout à fait. Donc il y a aussi un argument en faveur effectivement de la TVA. C'est pas non plus fermé. De manière générale, de toute façon, il est vrai que, enfin, il faut réfléchir à la combinaison optimale qu'on souhaite. Il y a des questions qui se posent. Et sur la question de la dépense. Là aussi, il y a des choses à rationaliser, alors sans rentrer forcément dans tous les détails, mais par exemple sur l'apprentissage, on sait qu'on a une politique qui était très coûteuse et qu'il y a sans doute des économies à faire. J'ai mon collègue Bruno Coquet à l'OFCE qui avait chiffré une partie de ses économies à 8 milliards d'euros, donc voilà, en disant qu'une partie des dépenses était inefficace. Mais ne serait-ce que si on prend même d'autres mesures, je sais pas, moi qui travaille pas mal sur l'éducation et la recherche, vous avez des dépenses comme le crédit impôt recherche, dont on dit qu'elles sont très orientées vers les grandes entreprises et pas du tout assez efficaces. On pourrait davantage les orienter vers les PME et les petites entreprises, et éviter un effet d'aubaine. Donc, je pense qu'il y a plein de mesures à rationaliser. Il y a la question aussi des transferts envers les collectivités territoriales et autres. Il y a pas mal de choses qu'on pourrait faire, mais ça ne se fait pas dans l'urgence, ça se réfléchit. Oui. Et c'est pareil, la fiscalité, c'est pas des mesures à l'emporte-pièce en disant je vais taxer les super-profits, etc. Il faut quand même que ce soit tout ça dans un cadre pensé, réfléchi, et qui soit optimal aussi en termes d'efficacité pour l'économie française.
Bruno Le Maire le disait hier matin dans les colonnes des Échos, 10% des contribuables représente une très grosse partie, je crois que c'est les trois quarts de ce que produit l'impôt sur le revenu. Il y a d'autres leviers que l'impôt sur le revenu.
L'impôt le revenu n'est pas la principale recette fiscale.
C'est la TVA, la recette fiscale.
Moi, je voudrais être un tout petit peu plus radical. C'est-à-dire que je pense que cette façon de ramener le problème à un problème financier est une façon de ne pas poser les vraies questions. Il n'y a pas de problème financier de dette en France. On arrive à placer les titres de dette. La France a une bonne solvabilité. Il y a un problème de gestion des finances publiques, oui, qui est un problème de long terme, d'ailleurs. C'est pas un problème qu'on devrait découvrir aujourd'hui. Ça fait quand même plusieurs années, voire décennies, qu'on parle de la gestion des finances publiques françaises. Le vrai sujet en France, c'est un sujet, en effet, de dépenses publiques et de fiscalité. Sur la fiscalité, je suis assez d'accord qu'il n'y a pas de raison d'exclure les choses. Pourquoi se fermer des portes? Ce n'est pas la peine.
C'est ce que disait le président délégué du Conseil d'analyse économique.
Je pense qu'il a raison. Et alors, mais le vrai sujet aujourd'hui, c'est les dépenses publiques. quels sont les choix de dépenses publiques que notre pays fait pour des raisons de contrat social, de stratégie, de vision à long terme, de transition énergétique, de transition verte, et comment on les finance. Or, c'est pas comme ça qu'on pose le problème. On dit, oh là là, on a eu 5,5% de déficit public, il faut absolument réagir et corriger nos dépenses, donc on va couper. Et quand on dit ça, le grand risque, c'est qu'on coupe de façon non réfléchie, là où c'est plus facile de couper, et il se trouve que c'est en général les endroits où c'est plus utile de maintenir les dépenses. Donc voilà, je crois qu'il y a un vrai sujet de réflexion profonde à long terme sur la structure de nos dépenses publiques, et on l'a pas, ce sujet.
Pierre-Henri de Menton, on a l'impression qu'on est assis sur un volcan en France. Est-ce qu'on peut décemment réduire les dépenses de 30 milliards d'euros ou augmenter les impôts sans mettre tout le monde dans la rue?
Sur l'augmentation des impôts, bon, il faut quand même rappeler qu'on est les champions des prélèvements obligatoires, donc c'est un petit peu compliqué. Pour l'instant, les agences de notation sont très clémentes avec la France, puisqu'il y a l'impôt rentre bien et il y a une acceptation malgré tout de l'impôt dans notre pays qu'il n'y a peut-être pas ailleurs. On est habitué à être matraqué de ce côté-là. La seule chose, c'est qu'il y a une contrainte, il y a une contrainte politique, c'est que l'actuel président de la République, c'est son mantra depuis le début de pas augmenter les impôts. Alors c'est un peu compliqué quand même de le faire. Donc ça peut être des dispositifs. Moi, je pensais par exemple au rachat d'actions où le président de la République avait annoncé des choses. Il n'y a jamais eu de suite parce que les lobbies patronaux sont opposés, mais quand on regarde ce rachat d'actions, donc c'est l'idée plutôt que de distribuer des dividendes, que les entreprises rachètent leurs propres actions, ce qui fait monter le cours de bourse. Donc c'est vraiment un investissement contre-productif, c'est-à-dire qu'on va investir pas pour racheter des entreprises ou conquérir des marchés, mais simplement pour entretenir. Donc ça, par exemple, aux États-Unis, Joe Biden s'est battu contre ça. Il y a eu des dispositifs, et pas en France. Ça peut être quelque chose. Et après, pour rebondir sur ce que disait Céline, il y a effectivement des niches, des dispositifs, en dehors, bien sûr, des réformes structurelles à faire. Je pense aux valeurs locatives, par exemple, qui sont toujours aussi fausses. Ça doit faire 20 ans qu'on en parle, ça n'a jamais été fait. Mais on est, par exemple, là, je regardais, bon, sur l'apprentissage, si on enlève les aides à l'apprentissage à partir des Bac plus 3, ça rapporte 3 milliards. Y a un truc amusant, donc c'est l'exercice qu'on a fait dans Challenge cette semaine. Les aides, quand on voit les aides aux associations sportives et de loisirs en France, ça représente 0,6% du PIB. On est les champions européens de ça. Si on revient à la moyenne européenne qui est de 0,4, c'est 6 milliards. Mais là, on prend le risque de, si on coupe dans les budgets des clubs de pétanque et de football, on prend le risque de mettre les gens dans la
rue. Est-ce que la pétanque est une discipline olympique?
Mais ce que je veux dire, c'est que à force d'avoir peur de faire des choses, on fait plus rien. Et je pense que l'exécutif a été un peu traumatisé par les gilets jaunes, et on a toujours ce truc de, on a peur de mettre les gens dans la rue. Je pense que les citoyens sont responsables et savent qu'il y a des problèmes qu'on leur explique bien. Il faut bien faire œuvre de pédagogie.
On va parler des grèves dans un instant. Céline, vous voulez
réagir?
Oui,
alors je suis d'accord avec ce qui a été dit. Et très rapidement, c'est vrai qu'on le rappelait, il y a 450 niches fiscales en France. Alors comme on dit, il y a un chien dans chaque niche. C'est-à-dire que c'est toujours compliqué de supprimer une niche. Mais après, il y a une question de choix aussi, de choix politique. Et c'est vrai que de là à être complètement frileux, après, effectivement, il faut faire en sorte, à mon avis, de vraiment avoir à cœur d'avoir une dépense efficace. Parce que je pense par exemple aux pays du Nord, parce qu'on dit souvent la France paie beaucoup d'impôts, mais la contrepartie c'est aussi qu'on a un système de protection sociale, etc. Évidemment. Mais il y a des pays qui sont plus efficaces avec une dépense publique plus faible. Donc il faut quand même aussi prendre exemple. Et par exemple, je voulais rappeler sur ce que je disais sur l'impôt sur le revenu, si on regarde certains pays comme l'Italie par exemple, en fait ils taxent au premier euro, c'est-à-dire que effectivement le premier euro gagné, il y a une participation à l'impôt sur le revenu, alors qu'en France l'assiette est très faible, on est à 43%. Donc voilà, je pense qu'il faut rien totalement s'interdire, et là aussi on peut supposer, il y a des pays nordiques qui ont des taux marginaux d'imposition sur le revenu qui sont plus autour de 50% alors qu'on est à 45%. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à repenser, mais je pense qu'il faut.
Il y a des choses qui sont tout à fait vendables, par exemple la TVA réduite sur les billets d'avion, c'est quand même curieux comme truc, et ça sera un signal. Là on parlait des chaînes de garde dans les niches, bon là il y en a assez puissant, mais Mais quand même, c'est là on serait, ça serait même peut-être bien perçu par une grande partie de l'opinion.
Je vous donne quelques réactions et des questions aussi. D'abord, une réaction des amis européens sur Twitter. La croissance française, c'est celle de la consommation intérieure. Avec le chômage qui remonte, il ne faut pas y compter. 2025 sera marqué par de la décroissance. Une question, celle de Nicolas, qui nous dit « Quels sont les indicateurs économiques qui expliquent la baisse de l'inflation ?»
Ah bah, la baisse de l'inflation, elle s'explique d'abord par la baisse du prix de l'énergie. Donc ça, ça a été, parce qu'il faut quand même rappeler que le premier choc, c'était le choc énergétique. Ça s'est transmis ensuite sur l'alimentaire, notamment parce que l'alimentaire, on a besoin d'énergie pour produire les engrais, le transport, etc. Et ensuite, il y a l'aspect aussi baisse de la demande qu'il faut pas oublier et qui explique la baisse aussi des prix, enfin de la baisse de l'inflation, puisque effectivement, ce qu'on a vu, c'est qu'au départ, après la crise de la Covid et au moment de la crise énergétique, on avait plutôt une demande très dynamique et une offre qui peinait avec les problèmes d'approvisionnement, etc., à la satisfaire. Et donc ça, ça a entraîné aussi une inflation. Aujourd'hui, on a plutôt des problèmes en matière de demande, une demande insuffisante. Donc.
Et j'ajouterais que la baisse de l'inflation montre aussi que le choc inflationniste ne s'est pas traduit par une traduction sur les salaires. Il n'y a pas eu de boucle prix-salaire.
Qui s'est fait de second tour, qui était beaucoup plus marqué aux États-Unis.
Qui a été un peu plus marqué, un peu plus marqué aux États-Unis.
Allez, on va parler dans deux mois, on va parler de déflation.
Et on va dire,
on va dire mais l'économie est un éternel recommencement. Question de Thomas Blard, un de mes anciens collègues journalistes, qui nous dit au sujet de la destruction créatrice, ne serait-il pas plus judicieux de parler de création destructrice ?
Wow, ça c'est pour spécialistes.
Alors ça c'est un éternel débat. Oui, alors en plus il y a une polémique autour de la traduction du concept de Schumpeter. Donc oui, c'est très juste de parler plutôt de création destructrice. Et ce qu'il faut voir justement, ça me permet de rebondir. Pour faire le lien avec le sujet qu'on abordait juste avant, il est vrai que au cours de la crise de la Covid et dans le quoi qu'il en coûte qui a suivi, on a eu tendance à soutenir toutes les entreprises de façon un peu indistincte. Et ça aussi. C'est un vrai problème et je pense que ça pose une question de l'État un peu qui vient toujours, qui est presque un État nounou, qui vient perfuser maintenant les entreprises. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout discriminé entre celles qui en fait avaient vocation à survivre et celles qui n'avaient pas vocation à survivre. Et du coup, on a soutenu tout le monde. Et aujourd'hui, on a devant nous le fait que certaines sont peu productives, ce qui explique sans doute aujourd'hui une partie du manque de productivité qu'on connaît parce que effectivement, on a aidé les bons et les mauvais risques, alors que dans un processus normal de l'économie, il y a de la création, il y a de la destruction.
C'est dur de choisir.
Une question avant la pause. Est-ce qu'il faut restreindre ou en tout cas encadrer davantage le droit de grève ? Le Sénat s'apprête à voter une proposition. Elle sera votée mardi prochain. Mais la proximité des Jeux Olympiques risque de bloquer son éventuelle adoption à l'Assemblée. Pourtant, c'est un vrai sujet. La grève en France, alors on rappelle la proposition du Sénat, imposer, interdire la grève dans les transports, notamment certains jours à proximité des vacances, par exemple. C'est un peu devenu une habitude en France. En matière d'attractivité, Pierre-Henri de Menton, est-ce que c'est pas un repoussoir, les grèves françaises ?
Écoutez, il faudra demander aux touristes étrangers. Ça
non, je parle en matière d'investissement.
Ah, d'investissement, je pense... Enfin, personnellement, je pense pas que ça soit un critère, on va dire, discriminant. Après, il y a des dispositifs législatifs. On parlait de communication politique. Là, c'est quand même là, on est vraiment au cœur de ça. Il y a beaucoup de dispositifs qui ont déjà été votés, qui sont sans arrêt contournés. Il y a toujours moyen de faire des préavis en chaîne, etc. C'est un signal politique. Je pense que c'est un peu dangereux de se lancer là-dedans aujourd'hui, précisément à 100 jours des JO.
Ouais. C'est la meilleure façon de se mettre.
Mais même indépendamment des JO, c'est franchement pas le moment de lancer un débat comme ça.
Enfin, oui. Quand est-ce qu'on lance ce débat ?
Mais je suis pas sûr qu'il faille le lancer. Je suis pas sûr que je pense que le vrai problème n'est pas le droit de grève. C'est une pratique, c'est l'absence de débat social en France. C'est très différent. Aujourd'hui, la seule façon de lancer un débat sur des mesures, c'est le droit de grève. On a des gouvernements de sachants qui savent ce qui est bon pour le pays, qui l'annoncent.
Alors, sans pourtant, la négociation...
ça déplaît et on voudrait
agréer. Mais pourtant, c'est quand même un excusez-moi, problème. La négociation sociale permanente, un petit peu sur le modèle allemand, c'est ce que voulait faire François Hollande, il n'y est jamais arrivé.
Oui, voilà, alors il y a un petit problème quand même par rapport à l'Allemagne, c'est la faiblesse de nos syndicats.
Voilà,
on a tous en tête ce qui s'est passé sur les contrôleurs de SNCF. c'est pas venu, c'était pas un mouvement syndical.
Et voilà. Il y a une différence parce qu'en Allemagne, les salariés, enfin, c'est uniquement les salariés du privé qui peuvent faire grève. Les fonctionnaires ne peuvent pas faire grève. Voilà. Et c'est vrai qu'en Allemagne, ça s'inscrit dans en fait une logique de branche industrielle qui est forte,
voilà,
puisque par exemple les négociations syndicales en Allemagne, elles ont lieu sur les salaires, elles ont lieu tous les deux ans au sein de représentations comme par exemple la sidérurgie, IG Metall, etc. Donc il y a vraiment des gros syndicats et c'est eux en fait qui portent ces négociations. Et il y a un taux de représentativité syndicale qui est bien plus élevé.
Et c'est de ça qu'il faut parler. Je pense que le vrai sujet, il est là, il n'est pas dans l'encadrement du droit de grève.
Et après, enfin, moi, personnellement, sur le droit de grève, je veux dire, il y a deux principes en droit qui s'opposent. Il y a la continuité du service public d'un côté,
voilà,
et le droit de grève de l'autre, et on a fait
dans la Constitution
de les concilier. Bon, voilà. Ouais. Moi, ce qui me choque un petit peu aussi dans le débat, c'est que c'est vrai qu'on en parle à l'approche des vacances, du droit de grève, à l'approche des vacances. Moi, je pense que si à ce moment-là, on légifère, enfin, je veux dire, c'est pas uniquement les vacances, c'est bien d'aller travailler aussi. Donc, je pense que voilà. Puis le télétravail a mis aussi un petit bémol à ça, puisqu'aujourd'hui, avec le télétravail, je pense que c'est aussi un peu plus facile de s'organiser, notamment face aux grèves dans les transports. Mais je suis quand même assez choquée du fait qu'on ne parle... Enfin, oui, c'est bien de partir en vacances, c'est bien de pouvoir aller travailler aussi.
Et on appelle l'investissement comme étant la justification du débat, ce qui n'est pas. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, on dit régulièrement que la France est un des pays les plus attractifs en Europe. Donc, il y a une contradiction.
Et les chiffres le confirment, en matière d'investissement
étranger. Vous prenez le nombre d'heures de grève, je ne pense pas qu'on soit très mauvais. Hein,
peut-être qu'ils sont concentrés, qu'elles sont concentrées ces heures.
Oui, elles sont toujours désagréables à vivre. Il ne faut pas se le cacher. Mais bon.
Allez, dans un instant, on va parler de l'actionnariat salarié dans les entreprises. Je vous donne juste un petit commentaire avant la pause. On peut toujours compter sur les experts pour inventer des hausses de taxes et d'impôts dans le pays déjà le plus taxé au monde, mais beaucoup moins pour baisser la dépense publique. C'est affligeant.
Oh.
C'est la Pravda qui nous dit ça. Merci, la Pravda. On se retrouve juste après.
On a fait les deux.
Les experts, débat et controverses sur BFM Business.